Génial.
C'est parti, RF Tov, les coulames. Et donc, lundi soir, très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire sur les grands personnages, on va dire, modernes. Parce que pour l'instant, on est sur des périodes du XXe siècle, on va dire. Les grands personnages qui ont façonné la Torah d'Israël, Am Israël, Eretz Israël, qui nous ont appris à être les dirigeants du peuple juif. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai essayé, depuis le début de notre petite série, de varier les plaisirs. C'est-à-dire que, pour l'instant, on ne pourra pas m'accuser d'être parti pris pour un côté. On a commencé avec un rabbin qui venait d'Allemagne, ensuite on a été sur un rabbin qui venait de Lituanie plus, on a été sur un rabbin de Pologne, on a été sur un rabbin de Tunisie, et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau qui nous vient directement de Bagdad. Donc, on peut pas dire que je fais que des rabbins comme ci ou comme ça. Je vous concocte même, pour la semaine prochaine, sans en dire plus, un rabbin qui nous vient du Yémen. Je sais pas, ou du Yémen, ou du Maroc, je sais pas encore, je vais voir. Ok ? Mais il y aura de toute façon un Marocain dans l'histoire, il y aura un Algérien dans l'histoire. Voilà.
C'est ce que j'allais dire là, parce que c'est comment, donc ça commençait à se compliquer là.
Quoi ? T'avais peur qu'on parle pas de Marocain ?
Je dis rien. Je dis rien.
Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Donc aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, à Rav Yitzhak Nissim. Et alors, j'ai appelé le cours L'honneur d'Israël. En fait, je voulais l'appeler en hébreu Harishon Letzion, mais je voulais mettre en surbrillance Harishon. Il était beaucoup plus Rishon Letzion que Rishon Letzion. C'est-à-dire qu'il aura été dans sa vie, vraiment, je vais vous dire très honnêtement, cette série de cours, à moi, me fait prendre conscience à quel point on ne se rend pas compte des gens énormes qui nous ont dirigés dans le domaine spirituel et dans le domaine concret. On se rend pas compte. Des fois, on connaît plus ou moins leurs enseignements, les chidushim qu'ils nous ont donnés, les torotes qu'ils nous ont donnés, et on s'éloigne du bonhomme et on se rend pas compte qu'on est face à des gens énormes. Le Rav Yitzhak Nissim, c'est vraiment impressionnant, mais alors vraiment, ce qu'il a fait dans sa vie. Au-delà de sa grandeur en Torah, parce que on va voir que c'était un très grand de la Torah, reconnu par tous les grands qui étaient ses pères, mais au-delà de cela, il a eu une activité. Je veux dire, si on a parlé du Rav Goren ensemble et que on a vu que le Rav Goren, eh ben, il en a fait des trucs pour l'histoire d'Israël, je pense que le Rav Yitzhak Nissim, qui lui a précédé d'ailleurs, c'est tout aussi énorme. Alors, venez, on rentre directement dans le vif du sujet. Le Rav Yitzhak Nissim naît à Bagdad. Donc, on parle de Yahadut Bavel. C'est le descendant direct au niveau spirituel du Ben Ishraï. Il est l'élève du Ben Ishraï. D'accord ? Donc, on venait vraiment sur la Yahadut Bagdad dans toute sa splendeur. Et le Rav Yitzhak Nissim, très jeune, quand il est très jeune, sa famille décide de partir de Bagdad et de partir en Israël, de faire l'Aliyah, l'appel de l'Aliyah, c'est parti, il doit partir. Maintenant, une fois qu'ils arrivent en Israël et que la famille s'installe en Israël, les parents du petit Yitzhak lui disent « Il faut maintenant que tu retournes à Bagdad. » Pourquoi il faut que je retourne à Bagdad ? Vous imaginez ? Et je te rassure, le chemin qu'ils ont fait pour arriver en Eretz Israël, il s'est pas fait en avion. Il s'est fait pendant des semaines à Dodan. Et finalement, une fois qu'ils sont réinstallés tranquillement, eh bien, on lui dit, non, Zéou, maintenant tu retournes tout seul, comme un grand, à Bagdad. Lama, tu vas te former en Torah. Vous allez me dire, n'y aurait-il pas des endroits où ils pourraient se former en Eretz Israël? Bah pas vraiment. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a plein de yeshivot, mais ses parents veulent qu'il soit d'abord formé dans la tradition des Chachmé Bagdad. Il a vécu à quelle période? C'est une très bonne question qu'on me pose. Eh bien, si tu veux des dates exactes, le Rav Yitzhak Nissim naît en 1895 et va mourir en 1981. C'est-à-dire, donc tu fais ton calcul, c'est vraiment récent, quoi. Bekitsour, ses parents le renvoient à Bagdad. Il va devenir là-bas l'élève du Rav Agassi. Comme j'ai dit, Rav Agassi, c'est l'élève du Ben Ishraï. Mais attention, bien que ses parents l'envoient, le renvoient à Bagdad, ils lui disent toujours, rappelle-toi d'une chose, Mekomcha Birushalayim. Ta place sera à Jérusalem. Là, tu vas te former, mais ta place sera à Jérusalem. La vérité, on connaît ça très bien d'un autre rabbin, et je dois vous dire que vraiment, chercher les personnages que j'ai envie d'évoquer, c'est aussi un grand moment parce que il y a des personnages que j'aimerais vraiment parler d'eux, mais je me dis, c'est pas la peine. Tout le monde connaît. Est-ce que je vais faire un cours sur le Rav Kook, sur le Rav Tzvi Yehuda? Est-ce que je vais faire un cours sur le Rav Mordechai Eliyahu, sur le Rav Ovadia Yosef? Je me dis, tout le monde connaît. Est-ce que j'ai besoin de faire un cours là-dessus? Mais d'un autre côté, peut-être que oui, lo yodea. Mais quand on parle du Rav Tzvi Yehuda, il a fait la même chose. Le Rav Kook l'a envoyé faire ses dents en route de l'Aret. Parce qu'en Eretz Israël, il était trop constamment, si vous voulez, embêté parce qu'il était le fils d'eux. Il ne pouvait pas se concentrer deux secondes pour étudier. Donc, il l'a envoyé étudier en Europe. Évidemment, dans l'optique qu'il revienne, une fois qu'il a fait un petit peu ses dents, et qu'il puisse terminer sa formation en Eretz Israël. Donc, il en va de même pour le Rav Yitzhak Nissim. Donc, il retourne à Bagdad, il va faire ses dents, et une fois que, finalement, il est prêt, il rentre à la maison. Il rentre à la maison, et à ce moment-là, va commencer la grosse histoire. D'abord, il rentre à la maison, mais il rentre pas tout seul. Parce qu'entre-temps, il s'est marié, il a fait Meod. Et donc, finalement, il va monter en Israël. Lorsqu'il va monter en Israël, il va d'abord faire face à un grand problème qu'il y a en Israël. On est dans le début des années 20, des années 30. Il arrive en Israël en 1925. C'est la deuxième fois qu'il arrive. Et là, on a un grand problème. Pardon ? Non ? Ok. Et là, on a un grand problème quand il arrive en Eretz Israël. Quand il arrive en Israël, il est tout jeune. Il a à peine une trentaine d'années. Il est déjà considéré comme étant un grand Talmid Chacham. Et il va arriver à un moment donné une grande question à laquelle il va être le seul à donner une vraie réponse. Quelle est la question? Il y a un juif du Maroc. Tu vois, on essaie de ne pas parler des Marocains, ils reviennent. On a un juif du Maroc qui s'appelle Salman. J'ai pas son prénom. Il s'appelle Salman et il va faire une donation très lourde de 10 000 lirot Eretz Israéliot, de 10 000 lires en cadeau au Yishuv de Eretz Israël. C'est une grosse somme d'argent. Seulement, lorsque l'argent arrive en Israël, t'imagines ce qui se passe. Toutes les communautés se disputent pour savoir qui va recevoir l'argent. En premier, t'as compris, les Marocains. Les Marocains, ils disent, c'est à nous que revient cet argent. Ça a été donné par un juif du Maroc, c'est pour nous. Bon, au final, qu'est-ce qui va se passer? Le Rav Yitzhak Nissim, il va dire, non mais vous n'avez pas compris, il n'est personne à ce moment-là. Il n'a pas de fonction rabbinique, il n'est pas rave de quoi que ce soit. Et pourtant, on lui demande son avis. Et le Rav Yitzhak Nissim dit, en Eretz Israël, il n'y a pas de dimension de cette communauté, cette communauté, cette communauté. En Eretz Israël, on n'est pas là pour faire revivre la galoute. En Eretz Israël, Am Israël est ensemble. Donc cet argent appartient à Eretz Israël, à tous les juifs qui sont en Eretz Israël. Il sera donc tout simplement répartis non pas par communauté, mais par Ezorim, par région d'Eretz Israël, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il va commencer encore plus à se faire connaître en Eretz Israël. En Eretz Israël, à ce moment-là, eh bien, il y a un homme qui est le Rav Arashi l'Israël, le Rishon Letzion, Sepharad. Il s'appelle le Rav Ben Tzion Meir Chayuziel. Rav Uziel, Rishon Letzion. Eh bien, le Rav Uziel raconte, lorsqu'il commence à se faire un petit peu plus vieux, eh bien, il cherche qui va pouvoir le remplacer. Qui va pouvoir prendre sa succession à la tête du grand rabbinat d'Israël. Et il raconte qu'il fait un rêve. Dans son rêve, il y a un énorme Sefer Torah au milieu de la synagogue. Le Rav Uziel essaye de le soulever, il n'y arrive pas. Tous les rabbanim du moment en Eretz Israël, à leur tour, essayent de soulever Excalibur, enfin le Sefer Torah, et personne n'y arrive. Et tout d'un coup, arrive le Rav Yitzhak Nissim et il soulève le Sefer Torah. Et à ce moment-là, le Rav Uziel dit, c'est lui qui sera mon successeur. Ça, c'est dans le rêve. Dans la réalité, après le rêve, le Rav Uziel ne va avoir de cesse que de demander au Rav Yitzhak Nissim de se présenter en tant que grand rabbin d'Israël. Et le Rav Nissim, il dit, mais moi, j'ai pas envie, moi, je suis pas là-dedans, moi, je veux être pachout. Au final, comme la pression lui est mise de tous les rabbanim, il va se présenter au grand rabbinat d'Israël. Nous sommes en 1955. On est en 1955, vous avez compris qu'à ce moment-là, le Rav Yitzhak Nissim commence sur l'œuvre de sa vie. Et il a à ce moment-là 60 ans et il devient Rav Arashi Rishon Letzion. Mais je voudrais que vous compreniez deux secondes un truc. On va commencer à s'occuper de sa vie maintenant en tant que Rishon Letzion. Mais je voudrais que vous compreniez qu'il est certainement le Rishon Letzion le plus important de toute l'histoire des Rishon Letzion. Et je pèse mes mots. Je ne rentre pas dans le débat. Est-ce qu'il était plus tzaddique, plus racham que le Rav Avadia Yosef, que le Rav Mordechai Eliyahu? C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il a été le Rishon Letzion le plus important et pour une seule raison. D'abord, parce que pendant une longue période, il a été le seul Rav Arashi l'Israël. Il a été le seul parce qu'il y a eu un long moment de battement entre le décès du Rav Yitzhak Herzog et le remplacement du Rav Herzog par le Rav Unterman en tant que Rav Arashi Ashkenazi. Donc pendant longtemps, il a été le seul Rav Arashi, il n'y avait qu'un seul grand rabbin d'Israël, et c'était le Rav Yitzhak Nissim. Mais rappelez-vous l'époque. Je vous ai dit 1955, l'État d'Israël est à peine né. Nous avons 7 ans d'État d'Israël, c'est rien du tout. Pendant ces 7 années, on a dû s'occuper pendant 1 an et demi de guerre, et ensuite on a dû s'occuper des 3 ans qui suivent de conditions de famine terribles dans le pays. Donc on a eu le temps de s'occuper vraiment de rien. Pourquoi je vous fais cette mini-introduction historique? Pour que vous compreniez que le boulot du Rav Yitzhak Nissim, ça va être de décréter quelle est l'ambiance de l'État d'Israël. Quel va être le cave, la direction que va prendre l'État d'Israël. Tout ce qu'il va faire, le Rav Yitzhak Nissim, va avoir une incidence pour nous aujourd'hui sur ce à quoi ressemble l'État d'Israël. Il va devoir statuer sur tout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Toutes les grandes questions de comment va fonctionner l'État juif, ça tombe dans les mains du Rav Yitzhak Nissim. Parce que rien n'avait été vraiment décidé avant. Plein de rabbins avaient écrit, mais rien n'avait été décrété, décidé. Est-ce qu'on va travailler Shabbat en Israël? Est-ce qu'on va manger kasher dans les institutions de l'État? Est-ce qu'on va... tout ce que vous pouvez imaginer, ça va tomber dans les mains du Rav Yitzhak Nissim. Et une des questions les plus importantes à laquelle il va devoir répondre, c'est qui est juif pour prétendre à venir s'installer en Israël. Vous imaginez que cette question-là ne s'est pas vraiment posée. Il y a le choc qui va être déposé pour ce qu'appelle le Chok HaShvut, Mais il y a une autre dimension qui est dans un séif du Chok, de savoir qui est juif dans l'histoire. Parce que pour qu'on remonte à un grand-parent juif, il faut déterminer qui est juif. Toutes les grandes questions, les grands défis de à quoi va ressembler l'État d'Israël, c'est le Rabbi Yitzhak Nissim. Il a tout fait. Et avant de rentrer dans le détail des choses, je me permets de dire quelque chose qui, en fait, je devrais le dire à la fin, mais je le dis maintenant. On en a pu des rabbins comme ça qui ont compris que leur rôle de Rishon Letzion, c'est de ne pas statuer que sur la cacheroute. J'exagère volontairement. Le Rav Yitzhak Nissim a statué, a écrit sur tout. Il n'y avait pas une semaine, mamash, c'est comme ça que témoigne son fils. Il n'y avait pas, son fils c'était le Haver Knesset Moshe Nissim. Et il ne se passe pas un moment, une semaine, sans que le Rav ne sorte un article sur un truc qui s'est passé cette semaine. Et ça parle de tout. Ça va parler évidemment de questions de Torah, mais ça va parler d'économie, ça va parler de ce qu'il pense sur le comment ça s'appelle là, Shuka Shachor, des affaires au noir, ça va parler, il va écrire un très long texte sur ce que ça veut dire que Neil Armstrong marche sur la Lune. Arishon Letzion, l'homme marche sur la Lune. Tu crois que la Torah, elle a rien à dire là-dedans? Et donc, il écrit un très long texte sur ce que ça veut dire. Il va parler donc de tout. Parce que c'est comme ça qu'il voit son tafkid de grand rabbin d'Israël. Et ça m'amène directement à la première dimension incroyable. La Hartara. Le moment où il est couronné, si je puis dire, grand rabbin d'Israël, Rishon Letzion, en 1955. Alors qu'avant lui, tous les grands rabbins séfarades ont toujours été intronisés dans la synagogue Rabban Yochanan ben Zakkai, dans la vieille ville de Jérusalem. Lui, il est intronisé à la synagogue de Yeshurun, synagogue ashkénaze, au centre-ville de Jérusalem. Là-bas. Alors, on n'y pense pas, mais c'est pas shoot. Parce que Rabban Yochanan ben Zakkai, la synagogue, elle est entre les mains des Jordaniens. On est en 1955. La vieille ville n'est pas entre les mains juives. Donc, il est intronisé dans la plus grande synagogue de Jérusalem. À l'époque, c'est la synagogue de Yeshurun. Il n'y a pas encore Echal Shlomo. Donc, il va à Yeshurun. Ok, ça, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il va dire dans son intronisation? Ça, c'est terrible. Il y a un homme qui est très content au début de la soirée, mais qui va froncer les sourcils et qui va être terriblement déçu et très énervé contre le Rav Yitzhak Nissim fraîchement nommé. Il s'appelle le premier ministre de l'État d'Israël à ce moment-là. Il s'appelle Moshe Charet. Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement énervé contre le Rav Yitzhak Nissim? Parce que vous savez ce qu'il a osé dire le jour de son intronisation? Il dit « Ok, je suis à Yeshurun ». Parce qu'on ne peut pas être Rabban Yochanan ben Zakkai. Parce que pour l'instant, la vieille ville, elle est entre les mains des Jordaniens. Et qu'on ne va pas laisser faire ça. Et que Meshkacher Yerushalayim Tishkach Yemini va Kotel. Jusqu'à présent, c'était Assour. Assour Mikol Chochmat Aïssour. De parler du Kotel, de la vieille ville, dans les institutions publiques. Comme si l'État d'Israël de l'époque voulait accepter la réalité que bah, on est strappé là-bas. Le Rav Yitzhak Nissim, intronisation, il dit « Bli à Kotel, Enkoum !» Et on va tout faire pour y retourner. Ça va commencer ces prises de position qui vont lui mettre tout le monde à dos. Le Rav Yitzhak Nissim a une qualité, un pouvoir surnaturel, j'allais dire, c'est que il est toujours en delay. Il a toujours du décalage entre le moment où il prend la décision et le moment où tout le monde dit bah, « t'as eu raison ». Il y a toujours un delay. Dans toutes les choses qu'il va faire, il se fait d'abord exploser par toute la presse, par tout le monde, sur le moment, et pas qu'à voix, deux jours, trois jours, une semaine plus tard, les gens disent « Ah ben non, ben il avait eu raison. C'est surnaturel. » Et vont commencer les grandes discussions. Le premier sujet sur lequel il va statuer, ça va être la question du Shabbat. À ce moment-là, on est en 1955, il y a une entreprise qui est l'entreprise presque, c'est pas vraiment un monopole, mais c'est une entreprise qui est ultra, ultra puissante en Israël, la nouvelle Israël fraîchement créée. Cette entreprise, elle s'appelle Isranyar. C'est l'entreprise Israël qui va créer le papier. Je vous rappelle qu'on est quand même dans un pays qui a été créé par des gens qui étaient baignés de socialisme et de communisme. Donc, c'est The Société qui fait le papier en Israël. Il y en a d'autres, mais elles sont meod meod ktanot. Seulement, il faut se poser une petite question. Qui est l'un des plus gros clients de cette société? Ah non, pas Israël, ça c'est une deuxième. Niar Israeli. Niar Israeli, elle s'appelle la société. Et qui est le plus gros client de Niar Israeli? Bah, c'est qui les gens qui impriment énormément? Je ne t'entends pas.
L'État.
Alors, l'État, quoi, les journaux, tu parles?
Les banques.
Non. Les gens qui impriment des livres religieux. Wow. Bah ouais, ça imprime des livres tout le temps, les religieux. C'est pas un gouf. Mais tous les gens qui impriment des livres, ça passe par Niar Israeli. Et le problème, c'est qu'il y a une des personnes qui travaille dans l'entreprise qui vient voir le Rav Yitzhak Nissim et qui lui dit « Rav, l'air le tzoumet libro shel Rav, juste que vous soyez au courant, l'entreprise, elle marche Shabbat. Hein. » Et donc, le Rav Yitzhak Nissim va aller voir tout de suite les patrons de Niar Israeli en leur disant « Les amis, vous faites un papier de qualité extraordinaire. » Je suis très heureux de savoir qu'Israël est capable de produire du papier de qualité. Mais si vous continuez à faire ça pendant Shabbat, je me verrai dans l'obligation de décréter officiellement qu'il est interdit par la Torah d'acheter chez vous.
Non, point. C'est bien. Le Rav Nissim. Ça, c'est le Rav Nissim, regarde-le.
Oui, ça, c'est moi. Je ne suis pas le Rav Nissim. Je n'ai pas ce mérite-là. Bekitsour, donc il dit, si vous ne changez pas, bah, je serai obligé de dire qu'on ne peut pas acheter chez vous. Maintenant, les Menahalim, ils disent, ah, ça va, pseder.
Pardon, pour ça, est-ce que tout le monde peut se mettre en mute? Est-ce que tout le monde peut se mettre en mode silence?
Bon, j'arrive, je prends
donc. Et donc, les Menahalim, les directeurs de l'entreprise, vont dire ouais, non, mais c'est pas possible, machin, et ils se quittent bons amis. Sauf qu'une semaine plus tard, lorsque le Rav Yitzhak Nissim comprend que rien n'a changé dans l'entreprise, il sort le psak halakha, le Rishon Letzion, il a dit on n'a pas le droit d'utiliser Niar Israeli. Et tu vois pas qu'au bout de deux semaines, c'est 73% des ventes de Niar Israeli qui sont tombées. Ils l'ont appelé le Rav Nissim en urgence en leur disant « Dis-nous ce qu'il faut faire. » Et dit « Non, si vous m'écoutez, je suis prêt à enlever le psak et à dire que c'est très bien d'acheter chez vous. » Mais il est hors de question que les bases de ce qui nous sert de lecture d'Israël, eh bien, ça travaille pendant Shabbat. Suite à ce psak-là, eh bien, l'État d'Israël va statuer Chok HaShabbat. Qu'on n'a pas le droit de travailler Shabbat. Ça va connaître évidemment des évolutions au fur et à mesure des années, Chok HaShabbat. Mais c'est comme ça que ça va commencer avec le Rav Yitzhak Nissim. Une fois qu'il s'est occupé du Shabbat, eh bien, il y a un autre truc qui est pour lui cardinal. Cardinal. Et donc, il dit, cette fois, j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Le Rav Kook, 40 ans avant lui, avait fait ce qu'on appelait Massa à Moshavot. Il avait été voir les différentes Moshavot, villages d'Israël, pour les Chazek Otam. Le Rav Nissim, il dit, je vais faire ma Massa à Moshavot à moi. Seulement, c'est pas du tout les mêmes styles de Moshavot. On parle de Massa à Kibbutzim. Il va voir les Kibbutzim les plus... D'ailleurs, il commencera par le Kibbutz qui s'appelle Gan Shemuel. Alors, pas Givat Shemuel, mais Gan Shemuel, qui est le Kibbutz phare de la Shomer HaTzair. Il commence volontairement là où ça va faire mal. Et il part. Il va là-bas. Il a demandé la permission au kibbutz, est-ce qu'il a le droit de venir? Et les gens lui disent oui, avec plaisir. On sera très honoreux de recevoir le grand rabbin d'Israël. Et donc, quand il arrive à Gan Shmuel, il est émerveillé. Il est émerveillé de ces gens qui sont en train de faire fleurir Eretz Israël. Et il leur dit toutes les cinq minutes que vous êtes des gens extraordinaires, ce que vous faites, c'est fantastique, vous réalisez les promesses des prophètes, vous êtes extraordinaires. Les gens de Gan Shmuel n'ont jamais vu un rabbin de leur vie. Faut le savoir. On est à Shomer HaTzair, la deuxième génération. Ils n'ont jamais vu un rabbin de leur vie. Ils leur font le sivouv de Gan Shmuel. Et finalement, eh bien, on va voir là-bas, enfin, le Rav commence à voir un petit peu partout et se rend compte très vite qu'il n'y a nulle part de Mezouzot. Ni dans le Bet HaTarbout, ni dans le Cheder Ochel, ni dans aucune des maisons du kibbutz. Vous allez me dire, kibbutz de la Shomer HaTzair, pourquoi tu veux trouver une Mezouza? A priori, pas de problème. Seulement, à ce moment-là, alors qu'il voit qu'il y a de Mezouzot partout, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Rav va commencer à expliquer, lorsqu'il parle de Merkaz HaTarbout, de Echal HaTarbout là-bas, dans le kibbutz, il va raconter. Il dit, vous savez, il y a une histoire dans le Talmud qui nous raconte une discussion qu'il pouvait y avoir entre Rabbi Yehuda Hanassi et le roi de Rome, le Melech Romi à Caesar, Marcus Aurelius Antoninus. Et là-bas, il dit, moi, je t'envoie un super cadeau de mes trésors et toi, tu m'envoies un cadeau de tes trésors. Il dit, ok. Et alors que César lui envoie un diamant énorme, Rabbi Yehuda Hanassi lui envoie une mezouza. César est très énervé en lui disant, moi, je t'ai amené un truc super cher et toi, tu m'amènes un bout de parchemin que n'importe qui peut écrire. Il a dit, toi, tu m'as donné un cadeau que je vais devoir faire garder. Moi, je t'ai donné un cadeau qui garde. Maintenant, les gens posent la question. Il dit, mais c'est quoi une mezouza? Et là, le Rav Nisrak Nissim comprend. Quand il va se tourner vers les enfants du kibbutz, il leur demande, dites-moi, les enfants, est-ce que vous savez quelle est la première des 10 commandements? Pas de réponse. Dites-moi, est-ce que vous savez quel jour tombe Rosh Hashana? Pas de réponse. Dites-moi, est-ce que vous savez qu'est-ce que on fait de particulier une fois par semaine, le samedi? Pas de réponse. Et le Rav Yitzhak Nissim comprend quel est le fossé qui sépare le monde du kibbutz de ses racines juives. À ce moment-là, il leur pose une question. Il leur dit, est-ce que vous savez l'histoire de Trompeldor? Est-ce que vous connaissez l'histoire de... Et il cite comme ça une dizaine de noms des Giboré Israël qui ont construit le pays d'Israël, qui se sont battus pour la terre d'Israël. Et là, tout le monde lève la main, tout le monde dit, bah évidemment, on connaît. Il dit, mais posez-vous une seule question. Pourquoi ils se sont battus pour cette terre? Il dit, bah c'était la terre de leurs ancêtres. Ah, et c'est marqué où? Il dit, bah, dans la Torah. Il dit oui, il y a d'autres choses qui sont marquées dans la Torah, comme les 10 commandements, comme Rosh Hashanah, comme le Shabbat, comme la Mezouza. Le bikour se termine et à partir de ce moment-là, deux semaines plus tard, va arriver une lettre au bureau du grand rabbin d'Israël, du kibbutz Gan Shmuel. Est-ce que on peut compter sur vous, Kvod Harav, de nous envoyer 37 mezouzot dans les plus brefs délais pour couvrir toutes les maisons du kibbutz? Gan Shmuel va devenir l'éclaireur qui va faire que, dès lors, dans tous les kibbutzim, et pas que les kibbutzim, dans tous les villages d'Israël, dans toutes les villes juives d'Israël, eh bien, ça va être la loi que dans les institutions représentantes du gouvernement et de la fonction publique, eh bien, il y a des mezouzot partout. Arav, Yitzhak, Nissim. Non seulement le Shabbat devient un jour, le jour officiel, on n'a pas à travailler, mezouzot, bechol makom. Mais l'un des moments qui va être, on va dire, un des tournants qui va lui faire prendre une dimension énorme au niveau national. Après, on va arriver à l'international. Mais au niveau national, c'est lorsque arrivent les 5 ans de la mort du premier président de l'État d'Israël, Chaim Weizmann. Pour la Haskara des 5 ans de Chaim Weizmann, il va y avoir un grand tekes, une grande cérémonie qui va être organisée. Évidemment, le Rav Yitzhak Nissim est invité en tant que grand rabbin d'Israël, bien évidemment. À ce moment-là, le Premier ministre s'est redevenu Ben Gurion. C'est normal qu'on invite le grand rabbin d'Israël. Maintenant, le grand rabbin d'Israël va dire c'est un grand honneur. C'est un très grand honneur d'être invité à la cérémonie, la Haskara de Chaim Weizmann, un grand, grand monsieur du peuple juif. Est-ce que vous pourriez me faire parvenir, s'il vous plaît, le protocole de la soirée, que je vois quand est-ce que je dois intervenir et ainsi de suite. On lui fait parvenir le protocole de la soirée et il se rend compte, non seulement qu'il ne va pas parler, mais qu'il n'y a rien de juif dans cette soirée. Rien. Il y aura des discours par-ci, des discours par-là. On va mettre une grande gerbe de fleurs. Il n'y a rien de juif. Toute la soirée, c'est un copier-coller des soirées chrétiennes de souvenirs sans la messe ou des soirées d'Europe de la laïcité. Le Rav Yitzhak Nissim va faire envoyer un très joli message à Monsieur David Ben-Gurion, lui disant « Je ne viendrai pas à la soirée. » Comment ? Mais vous êtes un employé de l'État, vous n'avez pas le droit. Il dit, mais écoutez, j'aimerais bien venir, mais dans la mesure où vous avez fait de cette soirée une soirée chrétienne, je suis le grand rabbin du judaïsme. Je ne peux pas participer à cela. Donc si vous êtes d'accord de changer la soirée, de lui mettre des tons juifs, je viendrai avec plaisir. Bon, Ben Gurion, il n'a pas du tout décidé de changer quoi que ce soit. Donc, le Rav Yitzhak Nissim ne vient pas. Mais ça va faire un tollé. Ben Gurion va dire dans le journal le lendemain, il faut le virer, il faut le destituer. Ah ben, qu'est-ce qui se passe une semaine plus tard? Le pouvoir magique, le pouvoir surnaturel du Rav Yitzhak Nissim, la population se soulève. Dans les journaux, le peuple crie en disant, franchement, c'était le président de l'État d'Israël, c'est quand même un État juif, ce serait quand même pas mal que. Au lendemain de l'affaire de la Haskara de Chaim Weizmann, sera noté dans la loi les protocoles des cérémonies du souvenir de toutes les personnalités publiques de l'État d'Israël qui doivent comporter un discours d'un représentant du grand rabbinat, Kaddish, Yizkor, El Maleh Rachamim, Teilim. Maintenant, c'est officiel dans toutes les cérémonies, Arav, Yitzhak, Nissim. Mais comme vous le savez, le Talmud nous dit « Yesh shekone olamo besha'a ». Il y a des gens qui font un truc, c'est bon, ça les fait rentrer à la postérité. Bon, là, vous avez compris que le Rav Yitzhak Nissim, il ne fait pas un truc. Il n'arrête pas de faire des trucs. Mais s'il y a bien une chose qui va faire de lui le phare dans l'obscurité, qui va faire de lui l'homme qui a ramené l'honneur du peuple juif, Mamash. C'est pour ça que je voulais l'appeler le cours Arishon Shel Tzion. Il a été vraiment, à ce niveau-là, dans l'histoire qu'on va raconter maintenant, le patron. Et on lui est tous reconnaissants de cela. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, les amis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas très compliqué. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il s'est passé le drame. C'est quoi il s'est passé le drame ? Il s'est passé un truc terrible. 1964. 1964, ça fait 9 ans qu'il est grand rabbin d'Israël. Il est tout seul à ce poste, je vous ai dit. Et il va se passer un truc. Parce que cette année-là, il y a quelqu'un qui a décidé de venir en Israël. Et c'est la première fois que ça arrive. Ce quelqu'un, il s'appelle Paul VI, Shem Rechaim Irkav. Le pape Paul VI décide de venir en Israël. Opa! C'est la première fois que le pape va venir en Israël. Mais l'État d'Israël sont comme des dingues. Le pape, il arrive, il va falloir faire quelque chose, c'est terrible. Ah, bah, 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 bah. Maintenant, t'as pas compris. Le Vatican, ils n'ont pas appelé l'État d'Israël pour leur dire on veut faire une visite officielle. Ils ne les ont pas appelés. Parce que le Vatican, ils s'en tapent de l'État d'Israël. Le Vatican, ils pensent qu'ils sont chez eux en Israël. D'ailleurs, ils ne viennent pas en Israël, ils viennent en Palestine. Ils ne demandent rien à personne. Ils ne passent aucun coup de téléphone. Alors qu'en Israël, c'est là qu'on essaye de les appeler pendant 3 mois. Personne ne leur répond. Le Premier ministre, il appelle, on ne répond pas. Ils s'en tapent. Ils ont décidé de venir, point. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne va pas faire pour cette visite du pape ? On va lui faire un chemin, on va lui faire un kvish particulier pour monter au Mont Sion, machin. Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Mais il n'en a rien à faire de nous. Il a prévu de faire un grand, grand discours. Un grand, grand discours. Il a prévu de faire un grand, grand discours à Megiddo. Megiddo, c'est pour les chrétiens, la prophétie de Armageddon. Armageddon, c'est pas un film avec Bruce Willis. À la base, c'est Har Megiddo. La montagne de Megiddo. C'est-à-dire, il y a prévu d'avoir donc une grande cérémonie là-bas pour les chrétiens. L'État d'Israël décide, bon, bah alors, on va aller là-bas et on va lui faire un Kabbalat Panim Kavod Melachim.
J'ai pas compris, t'as dit que t'allais faire un cours sur Bruce Willis?
Voilà, c'est ça. C'est le prochain. Ils veulent lui faire une Kabbalat Panim de Melachim. Et donc, on envoie un message au Rav Yitzhak Nissim pour lui dire de venir les Kabel et Panav du pape. Je ne sais pas si vous comprenez l'ambiance. Le pape hein, qui vient en Israël, c'est les mecs qui sont comme des oufs. Le Rav Yitzhak Nissim, il dit « Je viens à une condition. » C'est qu'une fois que moi je suis venu pour l'accueillir à Megiddo, ils viennent dans mon bureau à Jérusalem. C'est donnant-donnant. Si moi je viens Kivyachol à sa fête, il vient chez moi. Les mecs ils lui disent, mais non, mais t'as pas compris, il nous parle même pas au téléphone. On n'arrivera jamais à le faire venir. Il dit, bah alors je viens pas. Non mais vous prenez pour qui? Il se prend pour qui le bonhomme? Mais tu crois qu'on a quelque chose à lui devoir à cet homme-là, qui, entre parenthèses, était le secrétaire de Pie XII, encore plus Shem Rechaim Re'irkav? Ils savaient tout ce qui se passait pendant la Shoah et ils n'ont rien fait, mais on leur doit quelque chose. Il dit, mais attendez, ça va faire un incident diplomatique et tout, il faut que le Rav vienne. Il dit, s'il ne vient pas nous faire du kavod à nous, moi je ne lui fais pas du kavod à lui. Il dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il dit, le Rav Nissim, il dit, bon, je suis prêt à faire un compromis. Il ne veut pas venir me voir? Pas de problème, il ne vient pas me voir. Mais alors qu'il aille sur les cendres du Martef HaShoah Be'Har Tzion. Parce qu'il a une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé là-bas. Il dit, mais t'es fou, on ne peut pas dire un truc comme ça, mais ça ne va pas. Et le Rav Nissim, il ne vient pas à la Kabbalah de Panim. Il ne vient pas à Megiddo. Et vous savez ce qui va se passer ? Le monde entier d'Israël est en train de crier sur tous les toits. Mais qu'est-ce qu'il fait le Rav Nissim ? C'est terrible, mais enfin, on ne se rend pas compte. Il est en train de porter atteinte au chef des catholiques. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais. Le Rav Yitzhak Nissim, il dit, le kavod, on ne le lui doit pas à lui, il nous le doit à nous. Laisse tomber tout le monde. Tout le monde lui tombe dessus. Et Golda Meir, elle dit qu'il faut le révoquer. Et tout le monde, il dit qu'il faut le révoquer. Et tout le monde, il dit que c'est pas possible. Et il y en a même qui disent qu'il faut le faire comparaître devant les tribunaux. Mais n'importe quoi. Et arrive le grand jour.
Le grand rabbin Ashkenaz.
Et à ce moment-là, il n'y a pas de grand rabbin Ashkenaz. C'est la période où le Rav Herzog est décédé et le Rav Unterman n'est pas encore mis en place. Donc, il n'y a pas encore grand match. Maintenant, les amis, qu'est-ce qui se passe finalement ? Ben, je vais vous dire ce qui se passe. Il arrive à Megiddo. Il lâche pas un mot à la délégation israélienne. Il y a le Premier ministre, le président de l'État, le chef de la Knesset, le chef de la Cour suprême. Ils sont tous venus, genre Kabbalah de Panim. Il leur décroche pas un mot, il n'a pas un regard, pas un merci, pas un bonjour, rien. Il leur parle pas. Oulosam alenu. Nifnefotam. Il en a fait. Voilà. Ils sont tous été mouchpalim. Ils ont tous été honteux devant le pape. Qui a fait son truc, ensuite il est parti, et il est venu à Jérusalem, il a demandé à personne. Le voyage, il a duré quelques jours. Lorsqu'il repart, il repart par la Jordanie, parce qu'il est arrivé par la Jordanie. Entre parenthèses, quand il arrive en Jordanie, reçu par le roi de la Jordanie, Kabbalat Panim, il va lui faire une accolade, il va parler, et ensuite il enverra un grand message pontifical pour remercier son Altesse, le roi de Jordanie, de sa grande Kabbalat Panim. Et de... Il n'y a pas Israël dans l'histoire. On ne parle pas d'Israël. Quand les gens voient la réaction du pape, le pouvoir magique du Rav Nissim, une semaine plus tard, tout le monde vient le voir et lui disent « Arav, parce que tu n'es pas venu, zakafta et komatenu. Tu as été l'honneur d'Israël. » Tu n'as pas rampé devant ce rachat. Enfin, tu étais le seul qui a été la tour de garde de l'honneur d'Israël. Le delay du Rav Yitzhak Nissim qui a toujours raison. À partir de ce moment-là, Zéou. Tout le monde a compris qui c'était le bonhomme. Seulement, il semblerait que ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Ben évidemment que ça suffisait pas. La guerre des six jours arrive. Lorsque la guerre des six jours arrive, on gagne, on est très content et on oublie. On a parlé du Rav Goren, du Rav Tzvi Yehuda, machin. On oublie que le Rishon Letzion à ce moment-là, c'est le Rav Yitzhak Nissim, qui est le Rishon Letzion de la guerre des six jours. Il arrive évidemment quelques jours après la guerre et la victoire de Jérusalem et la force du Rav Nissim. Quand il parle, j'ai dit, c'est une semaine plus tard qu'on comprend ce qu'il a dit. Mais quand il parle pas, c'est sur le moment. Des fois, il parle pas, mais juste il t'a regardé et t'as compris. On est juste après la guerre des six jours, deux jours après la guerre, à la Knesset. Le Rav Nissim était très souvent à la Knesset. Il arrive à la Knesset. Et il discute dans un couloir avec deux Chavrei Knesset. Deux Chavrei Knesset, alors je ne sais pas si vous connaissez, les Chavrei Knesset en question. Il y en a un qui s'appelle... Attends. Il s'appelle... Ah là là, le deuxième, je le connais. Le prénom... Chavrei Knesset Shapira, mais comment c'était son prénom ? Je ne me rappelle plus. Shimshon Shapira et l'autre Chaver Knesset, c'est Menachem Begin. Il les voit tous les deux dans les couloirs de la Knesset, et il leur demande, Kvot Chavra Knesset, est-ce que vous accepteriez de vous joindre à moi demain pour aller dire 10 Pirkei Tehillim Bakotel HaMaharavi? Les deux Chavra Knesset, ils se sentent honorés. Il dit, oui, bien sûr, ce sera un honneur de vous accompagner, Kvot Harav. Et là, le Rav Nissim, il dit, très bien, demain matin, 6h30, au Kotel. Ou pas. On n'avait pas prévu de se lever si tôt, mais bon. Maintenant, on a dit oui, on va pas dire, on va pas un truc. Et donc, le Rav Yitzhak Nissim arrive au Kotel avec eux deux. On est au Kotel de juste après la guerre des six jours. Donc, c'est pas le Kotel que toi, tu connais. C'est le Kotel où il y a encore la Shrunat Amugrabim, où il y a encore les maisons, où il y a encore tous les débris de la guerre. Et il les emmène justement là où il y a tous les débris, là où il y a une canalisation d'égout qui a pété et qui est toujours en train de couler et ça pue. Et il se met là-bas pour prier et faire ses 10 Tehillim. Les deux Chavri Knesset, ils lui disent, Rav, on peut aller de l'autre côté, là c'est plus propre de l'autre côté, c'est un petit peu compliqué de prier ici, vous comprenez, ça pue quoi. Le Rav Yitzhak Nissim, il se retourne, une fois qu'il a terminé les Tehillim, il se retourne et il les regarde et il leur dit, et c'est tout. Ben là, c'est bon. Comme il n'a pas parlé, ça ne prend pas une semaine. On a dit, quand il parle, ça prend une semaine. Quand il ne parle pas, Zemiyad. Le lendemain matin, il n'y avait plus de Shrunat Amugrabim. Ils ont tout nettoyé. Ils ont tout commencé à déblayer et à tout nettoyer. Ils se sont compris que c'était Boucha Vecherpa, qu'il y a encore des choses pourries devant le Kotel. Otpam, Arav, Yitzhak, Nissim. Rabotai, vous croyez que l'incident avec son copain Paul VI allait être le seul? Mais non, il a récidivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé. On est vers la fin de sa kehuna. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On est à la fin de sa kehuna. Et à ce moment-là, il va se passer que pour la première fois, il va y avoir un attentat à Jérusalem. Un attentat à Jérusalem au Chouk Machane Yehuda. 15 juifs vont être tués à Machane Yehuda. Zenora. Le chef d'état-major à ce moment-là s'appelle Raffoul. Raffoul, c'est le mec que je pose pas de questions, je tape dans le tas et après on discute. Donc, en réponse à cet attentat qui est parti de terroristes qui venaient du Liban, eh bien, Raffoul va ordonner d'aller bombarder des bases aériennes libanaises. Aussitôt fait, je crois que c'était une dizaine d'avions libanais qui ont été détruits. Voilà l'incident. Voilà la situation. Il y a des terroristes qui sont venus tuer 15 juifs et en réponse, on a détruit une dizaine d'avions libanais. Des avions sans personne dedans, hein. Ils étaient au sol, les avions. Ben, tu vois pas que Monsieur Paul VI, il va sortir un communiqué officiel disant Yom Shachor la Enoshut. À cause de quoi? À cause des avions qui ont été détruits par Israël. C'est-à-dire, pas Yom Shachor la Enoshut parce qu'il y a 15 juifs qui ont été massacrés. Ça, on n'en parle pas. Yom Shachor la Enoshut. Parce qu'en réponse, on a détruit 10 avions des bases de terroristes. Évidemment que tout l'État d'Israël en mode État, c'est-à-dire en mode gouvernement, machin, le pape, il a dit, il ne faudrait pas embêter Monsieur Pape. Le Rav Yitzhak Nissim, il prend son stylo, il prend sa petite feuille et il y va. L'oraïnu me'az titus sheikhnis zona bebet kotcha kodashim L'oraïnu chutzpa shekazo ad divrei ahevel v'amechusha shel afifior Paulus ha-shishi. Je ne sais pas si vous imaginez la bombe. Le grand rabbin d'Israël, il dit, on n'a pas vu depuis que Titus il a ramené une prostituée dans le Kodesh HaKodashim il y a 2000 ans, on n'avait pas vu de chutzpa plus grande que celle du pape Paul VI. Et là, il y va, hein, toute la page. Comment tu peux oser, avec tout ce que tu savais pendant la Shoah, et comment tu peux oser pleurer sur des avions, et machin, et t'as rien dit pour les Juifs, et nanana. La lettre part. Elle est publiée. C'est comme si aujourd'hui, elle était dans le cloud. C'est terminé, tu ne peux pas aller la récupérer. Et là, la terreur dans le gouvernement. Tout le monde vient le voir, le Rav Yitzhak Nissim, mais tout le monde, un par un, Premier ministre, président, chef de ministre de tous les sens. S'il te plaît, Kvod Harav, s'il te plaît, envoie une lettre pour t'excuser. Le Rav Nissim, il ne bouge pas. Alors, les mecs du gouvernement, ils se disent, on va essayer de l'avoir à l'envers. On va aller voir son copain. Il a un très bon copain qui s'appelle Shmuel Yosef Agnon. Shai Agnon. Et on va aller voir Shai Agnon et on va lui persuader de dire au Rav Yitzhak Nissim. Donc, ils viennent voir Shai Agnon et lui disent, il faut absolument que tu persuades ton copain d'écrire une lettre dans laquelle il explique que ses paroles ont été mal comprises, elles ont été sorties de son contexte. Et Shai Agnon dit, alors vous avez tout à fait raison, c'est mon copain, et je peux vous assurer que si je lui demande d'écrire un truc comme ça, il va sortir une deuxième lettre encore pire. Donc je ne vais pas y aller. Donc pendant une semaine, c'est le drame. Non, il faut que tu comprennes c'est quoi le drame. Tous les Chavrei Knesset, Golda Meir, tout le monde, ils disent au Rav Nissim, sache qu'il va y avoir maintenant, à cause de ce que tu as fait, des pogroms dans tous les pays catholiques du monde. Et le sang des Juifs sera sur ta tête. Et le Rav Nissim, il répond, ça va, j'ai un beau chapeau sur ma tête, c'est bon, ça passe. Résultat des courses, une semaine plus tard, pouvoir magique du Rav Yitzhak Nissim. Le monde entier, mais le monde entier, les goyims, je ne te parle pas des communautés juives du monde, les goyims aussi trouvent que Paul VI a exagéré. Et dans le journal du Vatican, le journal papal, va être marqué une semaine plus tard, les paroles du pape Paul VI ont été sorties de leur contexte et ont été mal comprises. On demande nos excuses si on a blessé les Israéliens et les Juifs qui ont été tués. C'était pas du tout l'intention du pape. À Kavod, chez Am Israël, c'était le Rav Yitzhak Nissim. Le Rav Yitzhak Nissim va terminer sa kehuna en 1972. Il sera le premier rabbin, grand rabbin d'Israël, qui termine sa kehuna alors qu'il n'est pas décédé. C'est la première fois qu'on voit changer un grand rabbin d'Israël de son vivant, lui et le Rav Unterman. Ils vont être remplacés par le Rav Ovadia Yosef et le Rav Shlomo Goren. Mais le Rav Yitzhak Nissim aura laissé la marque indélébile de qu'est-ce que c'est l'État d'Israël. C'est lui qui aura donné, plus que n'importe qui, le côté juif de l'État d'Israël qui nous anime jusqu'à aujourd'hui. En quelle année cet attentat? Pas à la suite de la guerre de six jours quand même. Il faut que je revérifie. Si, c'est à la suite. Il faut que je vérifie. Je ne me rappelle plus exactement. Je ne me rappelle plus si c'est juste après la guerre ou juste avant la guerre. Machoukazé. Je vais vérifier. Quoi qu'il en soit, le Rav Yitzhak Nissim va être l'homme qui va donner à notre pays sa direction d'État juif. C'était une belle phrase dans la déclaration d'indépendance de Ben Gurion. C'est devenu une réalité dans le terrain grâce au Rav Agaon, à Rishon Letzior, Rishon Letzion, le phare dans la nuit, celui qui a été la tour d'honneur du peuple juif, Rav Yitzhak Nissim, Zatzal. Alors, sur quoi je terminerai notre histoire? Eh bien, je terminerai notre histoire sur une seule petite chose. Le Rav a écrit énormément de choses également. On peut retrouver un She'elot u'Tshuvot Yain Tov sur les questions de base de l'identité d'Israël. Et on a tous ces ma'amarim, j'ai dit sur tout et surtout, qui se retrouvent dans ce livre, dans son livre qui s'appelle Les Dors ou les Dorot. C'est une compilation de tous ces textes qu'il a écrit sur tout, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à dire à quel point le fait que Neil Armstrong marche sur la Lune, c'est important pour le dévoilement de Dieu dans le monde entier. Tout intéressait le grand rabbin d'Israël qui était véritablement Harishon Letzion. Erev Tov, Lekulam, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Merci
beaucoup. Maintenant, si vous voulez que je parle de gens en particulier, faites-moi des propositions.
Ah, mais on va lancer ça sur les...